travers votre spécialité. Quelle est leur particularité?
Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler du coronavirus COVID-19. Effectivement, ce virus COVID-19 fait partie d'une grande famille de virus qui infecte à la fois l'homme et l'animal. Quels sont les coronavirus? Et ce COVID-19 est vraisemblablement, à l'état actuel des connaissances, un virus qui a évolué à partir d'un virus de la chauve-souris qui s'est développé chez un autre intermédiaire, c'est-à-dire un autre chez qui il y a eu amplification, qui est le pangolin, qui semble jusqu'à présent être le pangolin, et qui est transmis maintenant à l'homme. Donc c'est un virus de l'animal qui a franchi la barrière de l'espèce. Faut-il le rappeler que les virus sont des microbes qui sont spécifiques de chaque espèce vivante. Et ces virus-là, qui étaient des virus des animaux, est passé chez l'homme, donc un nouveau virus que l'organisme humain, en termes de défense immunitaire, n'était pas habitué. Et c'est tout ce qui fait sa gravité, sa contagiosité.
Alors, docteur, c'est vrai qu'on a évoqué du bas taux de mortalité jusque-là, mais l'Italie a annoncé aujourd'hui 42 décès en 24 heures. Est-ce que ce serait une évolution du virus ou bien qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Oui, ce que vous venez de dire en ce qui concerne l'Italie nécessite effectivement des investigations plus pointues au regard non seulement de la particularité des personnes qui sont décédées et en termes d'âge, parce qu'on avait déjà signalé que c'est vrai que le virus il n'est pas très, en fait, n'entraîne pas beaucoup la mort en termes de proportion de mortalité, mais on avait quand même signalé que chez les personnes âgées de plus de 80 ans, il y a des risques plus élevés de mortalité que la population normale. Donc, il serait important qu'on donne, on mette un visage sur ces décès de l'Italie et on va mieux comprendre à ce qui concerne l'infection et sa morbi-mortalité.
Alors, moi, Madou, la COVID-19 a causé beaucoup de perturbations dans le quotidien des populations, n'est-ce pas? Des écoles fermées, des événements sportifs annulés ou en tout cas joués à huis clos. Est-ce qu'on verse, selon vous, dans l'exagération ou vu du taux de mortalité qui est toujours bas, ou ce sont des mesures qui se justifient à votre avis?
Oui, il faut dire qu'il y a un très grand nombre de cas de contamination. On est à près de 80 000, vous l'avez rappelé. Et donc, il y a près de 80 pays qui sont déjà touchés. Et donc, cette inflation d'informations qui circulent, qui occupe l'actualité, fait en sorte que, évidemment, les gens sont préoccupés par ce qui se passe. Et avec tous les fake news qui circulent, donc les gens sont véritablement préoccupés par cette maladie, qui est une nouvelle maladie. C'est une maladie qui, au moins le virus, on parle du nouveau coronavirus. Donc, c'est un virus qui est assez récent. Les gens n'ont pas assez d'informations sur la maladie. Et donc, il y a un vent de panique qui circule. Il y a une psychose. Les gens cherchent à savoir ce qui se passe. Les gens vont sur les réseaux sociaux. Et en pareille circonstance, on l'imagine bien. Les gens vont chercher les informations qui les rassurent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les réseaux sociaux. Et par exemple, sur Facebook. Facebook, qui est l'un des réseaux les plus utilisés chez les jeunes. Et donc, je crois que les autorités sanitaires en ont pris conscience parce que l'OMS travaille avec Facebook, par exemple, pour réduire les informations qui circulent. Je pense, par exemple, que Facebook, à travers son fondateur, a mis en place un dispositif qui fait que lorsque vous allez sur Facebook chercher l'information, vous tapez coronavirus, on vous renvoie vers des sites d'information spécialisés comme l'OMS, comme les instituts Pasteur et d'autres institutions qui sont mieux aguerries pour donner la bonne information en la matière. Donc, il n'y a pas de panique. Il faut aller sur les bons sites internet de l'OMS, les ministères de la Santé, les sites web des ministères de la Santé, les instituts spécialisés comme le CDC aux États-Unis et autres, pour avoir la bonne information parce que la maladie est là, mais il n'y a pas véritablement de raison de paniquer. Si vous avez la bonne information, si vous savez comment il faut se protéger, si vous savez comment, quels sont les symptômes et si vous êtes proche des milieux hospitaliers, dès que vous vous rapprochez des médecins et des hôpitaux, dès que vous avez les symptômes de la maladie.
Oui, mais malgré tout ça, ça, on continue de voir quand même beaucoup d'informations circuler qui ne sont pas fondées. C'est assez compliqué pour les gouvernements et les structures chargées de la riposte.
Effectivement, il y a beaucoup d'informations qui continuent, fausses, qui continuent de circuler. Et je crois que d'abord, les initiatives comme celle de Facebook que je viens d'évoquer sont des initiatives salutaires, mais les gouvernements doivent s'impliquer davantage. Ce matin encore, je lisais qu'au Sénégal, on a mis en place un plan de riposte avec un volet consacré à la communication. Et donc, il faut avoir, par exemple, des numéros verts qui permettent aux gens de poser des questions aux personnes qui ont la bonne information. Il faut, dans les éditions, les journaux parler, hein, c'est ce qu'on fait ici à la VOA, consacrer des pages entières à la maladie, à donner la parole aux experts, aux personnes qui ont une bonne connaissance de la maladie pour véhiculer la bonne information. Ce n'est que à ce prix-là qu'on pourra véhiculer la bonne information auprès du public.
D'accord. Alors, docteur Abdou Salam Ouedraogo, lorsqu'on parle de nouveau virus qui apparaît comme ça, comme la maladie de COVID-19, combien de temps cela peut prendre à la communauté scientifique pour l'étudier, le comprendre, mettre en place un vaccin ou un traitement?
Oui, à ce niveau, il faut que nous sachions tous que ce n'est pas un chemin linéaire à parcourir qui permet de prédire le temps qu'il faut pour mettre en place tous ces moyens de prévention, ces moyens de traitement lorsqu'on a un nouveau virus. On ne peut pas prédire cela. Mais dans le cas du COVID-19, ce que l'on sait déjà, c'est que à peu près un mois seulement après l'apparition des premiers cas à Wuhan, en Chine, les travaux ont permis de comprendre qu'il s'agissait là d'un nouveau virus, de connaître sa famille d'appartenance et sur le plan scientifique, de savoir ce que l'on appelle la séquence complète du virus. C'est très important en virologie parce que c'est sur cette base-là que tout ce que l'on dit comme moyen de prévention en termes de vaccins, en termes d'examen diagnostique, en termes de traitement, vont se baser. Donc, pour répondre directement à votre question, lorsqu'on a un nouveau virus, on ne peut pas dire, on ne peut pas prédire quel est le temps qu'on va mettre pour avoir des découvertes conséquentes pour juguler la maladie, mais dans ces cas, on peut dire, dans notre situation actuellement, nous avons des bases scientifiques, des bases techniques et technologiques qui font que, en très peu de temps, si le recul que nous avons avec les plateaux techniques, la science, la technologie, d'aller très vite. Et c'est ce qui était le cas avec ce virus.
Alors, qu'est-ce qui différencie ce virus avec celui qui est à l'origine du MERS, SARS et toutes ces infections qu'on a connues aussi en Chine, en Arabie Saoudite, au début des années 2000?
Oui, la différence que l'on peut dire, c'est que déjà, c'est un autre virus qui, même si ce virus appartient à la grande famille des coronavirus, c'est un nouveau type viral, donc il est différent des deux autres, mais il est très proche du virus du SRAS. D'ailleurs, on estime à 96% les similarités. Mais ce virus-là, à partir de la chauve-souris, contrairement au SRAS qui a émergé à partir de la civette, comme hôte intermédiaire ici, il semble le pangolin. Donc, c'est déjà une différence. Ça veut dire que les virus évoluent différemment. Mais sur les modes de contamination, sur les manifestations cliniques, nous voyons que c'est toujours une infection respiratoire sévère.
Alors, qu'est-ce qui favorise en fait son évolution? On parle, est-ce que le climat est un facteur, l'environnement? Vous travaillez sur ces virus émergents et vous venez d'un pays quand même où il fait très chaud et on a entendu toutes ces informations selon lesquelles la chaleur est un facteur, c'est un bon facteur pour contrer ce nouveau coronavirus. Est-ce que c'est le cas?
Oui, en fait, il y a des connaissances théoriques et des connaissances pratiques qu'il ne faut pas juxtaposer rapidement et tirer des conclusions auquel cas on risque de ne pas lutter efficacement. Parce que quand on prend les virus de façon globale, c'est des notions théoriques, la connaissance des coronavirus, la famille entière, fait dire qu'effectivement ce sont des virus qui possèdent une enveloppe, laquelle structure fait qu'elles sont sensibles à la chaleur. De façon, quand on parle de chaleur aussi, c'est à des températures élevées de l'ordre de plus de 50 degrés après une exposition de plus d'une heure. Donc, avec ces conditions-là, on a l'espoir que dans les pays chauds, ce virus n'est pas une évolution favorable. Mais il faut savoir aussi nuancer, parce que nous avons vu que le MERS a évolué au Moyen-Orient, où les températures sont élevées. Donc, il ne faut pas que nous tirons des conclusions sur le fait que les régions chaudes seront à l'abri, ainsi de suite. Non. À partir du moment que le virus se transmet par voie aérienne, il faut mettre en place des mesures de prévention, et peut-être que son évolution va être défavorable dans ces conditions. Du coup, la température sera élevée. Mais ce n'est pas seulement la température élevée qui va peut-être, dans les régions chaudes, qui va peut-être stopper l'évolution du virus.
D'accord. Alors, Mouhamadou Oumfa, vous le disiez tantôt, l'OMS était obligée de mettre en place un plan de communication spécifique pour faire face à la circulation rapide de ces fake news par rapport à ce nouveau coronavirus. Qu'est-ce qui est fait par des pays, par exemple, comme la RDC, qui ont vécu aussi une situation pareille avec Ebola, mais qui ont réussi à combattre? Souvent, et vous avez traité, disons, de ce sujet d'Ebola pendant plusieurs mois, voire des années, est-ce qu'on peut voir une similarité d'approche dans la communication?
Oui, une similarité d'approche à la communication, mais il faut dire, Abdou, qu'on est face à une maladie qui a une autre dimension. C'est quand même près
de 80... Dans la psychologie des gens, la réaction, c'est toujours un peu la panique s'il y a une grande inconnue.
Oui, c'est toujours la panique, c'est la panique, mais c'est une maladie qui a atteint une autre dimension. On parle de près de 80 pays touchés, avec ce que cela implique comme mobilisation au niveau des ressources financières, au niveau du personnel, au niveau de la recherche, des traitements et des vaccins. Et donc, il y a une véritable mobilisation, même au niveau des médias mainstream. Ebola, c'était la dernière épidémie, c'était en République démocratique du Congo, essentiellement. C'est vrai qu'en 2014, déjà, il y avait une autre épidémie en Afrique de l'Ouest. C'était quelques pays seulement localisés en Afrique. On est face à une maladie qui a une dimension mondiale. Et donc, la mobilisation est plus forte. Et évidemment, les experts de tous les pays se mobilisent. L'Organisation mondiale de la santé est davantage mobilisée, les gouvernements. Tout le monde est mobilisé, et donc on a l'espoir que les solutions vont venir de tous les pays, et donc on aura une approche, une riposte plus vigoureuse afin de contenir rapidement la maladie.
D'accord. On me dit qu'on a maintenant en ligne le docteur Dédé Ndongui. Il est le directeur national de l'hygiène aux frontières en République démocratique du Congo, et c'est lui qui est chargé de coordonner la surveillance coronavirus dans ce pays. Merci d'être avec nous, docteur. Alors, justement, on parlait de votre pays, la RDC. Qu'est-ce qui est fait, en fait, par votre pays pour préparer, faire face à une éventuelle entrée de ce nouveau coronavirus dans votre pays?
Oui, merci M. Abdou pour cette question. En fait, le problème, c'est que depuis l'annonce de cette épidémie en Chine, la République démocratique du Congo n'a pas croisé les bras. Nous avons commencé par cibler les aéroports par où viennent les voyageurs des pays affectés. En ciblant, nous avons capacité nos agents, nos prestataires sur le terrain. Nous les avons capacités, nous avons rendu disponibles des définitions des cas comme aide-mémoire à nos prestataires. Nous avons rendu disponibles des fiches sanitaires de voyageurs pour nous permettre de recueillir les renseignements de pays de provenance, mais aussi pour nous permettre de les suivre tout en étant sur le territoire congolais. Nous avons placé des détecteurs thermiques au niveau de tous les points de contrôle. D'accord. Des caméras au niveau des aéroports, mais aussi au niveau de certains points d'entrée terrestre stratégiques. Parfait. Nous avons placé de personnel de santé, médecins, infirmiers, au niveau de tous ces points d'entrée pour une observation visuelle.
D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous restez avec nous. Nous avons beaucoup de réactions de nos téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. On commence par Archiduc Théodore Ndiamena qui écrit que la sensibilisation est l'un des moyens les plus efficaces et on doit être vraiment prudent en se protégeant. L'Afrique est très vulnérable vu la proximité physique entre personnes qui est monnaie courante. Alors les populations doivent déclarer tout suspect afin de les placer en quarantaine, dit-il. Gaspard Kimonga à Lubumbashi en RDC nous dit que la meilleure façon de prévenir cette maladie en Afrique est l'interdiction des voyages hors du continent. et à Rona Baldé à Dakar. Certes, cette maladie est un véritable casse-tête pour tout le monde, mais je peux noter qu'il y a une défaillance à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Les autorités auraient dû prendre des mesures préventives pour contrôler les personnes en provenance des pays touchés par ce virus. Donc assez beaucoup d'inquiétudes de la part de nos téléspectateurs et beaucoup d'interrogations. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum, Abdourahmane Dia, la présentation. Nos invités, je rappelle, depuis Atlanta, Dr Abdusalam Ouedraogo, professeur de microbiologie médicale à l'université Nasi Boni au Burkina Faso, récipiendaire de Fulbright Research. Dédé Ndoungi, directeur national de l'hygiène aux frontières, coordonnateur de la surveillance coronavirus en RDC. Et avec moi, Mohamed Oumfa, chargé donc de la rubrique santé ici à VOA Afrique. Merci à tous. Alors, le Sénégal a enregistré cette semaine ses premiers cas de coronavirus. On compte actuellement 4 malades, 3 Français et une Britannique. L'État a réagi en lançant un vaste plan pour tenter de contenir la maladie infectieuse. Un plan d'un montant de 2 700 000 $, surveillance renforcée, formation du personnel de santé et communication auprès du grand public. Voici les grands axes de ce plan avec ce reportage d'Alison Lecoto-Fernandez.
Au centre des opérations d'urgence sanitaire dans la capitale sénégalaise, Mamadou Fall fait le point sur le matériel disponible. C'est ici que viennent s'approvisionner de nombreuses équipes d'intervention mobile susceptibles d'être en contact avec des malades atteints du coronavirus. Le centre les dote de différents équipements.
Dans le kit, il y a des alcoogels, il y a aussi des thermomètres. Mais nous changeons ces thermomètres aujourd'hui vu la gravité de la contamination et puis la rapidité de la contamination. Nous utilisons des thermoflashs que nous mettons à disposition des EMIS pour ne pas avoir un contact direct avec le malade.
Le centre des opérations d'urgence sanitaire a été créé en 2014, après l'éclatement de l'épidémie d'Ebola. Il est aujourd'hui chargé de coordonner la riposte au coronavirus. À cet effet, le gouvernement sénégalais a annoncé cette semaine le lancement d'un plan d'une valeur d'$1,7 million qui inclut formation du personnel de santé, mise à niveau des centres de traitement ou encore communication auprès du grand public via les médias ou encore les réseaux sociaux.
La contagiosité, elle est extrêmement importante et nous nous mettons dans les dispositions d'avoir plusieurs cas. Et ça, je pense qu'au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des autres secteurs avec qui nous travaillons, les stratégies sont en train d'être développées. Et voilà, nous avons vraiment tous les scénarios en place jusqu'au scénario le pire scénario.
Les malades infectés par le coronavirus au Sénégal ont été placés en quarantaine à l'hôpital Fann. 24 heures après l'annonce du premier cas, les gels antiseptiques et masques étaient déjà en pénurie dans de nombreuses pharmacies de Dakar.
Tout le monde a peur, hein. C'est partout dans le monde, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Même les Sénégalais, ils n'avaient pas peur, mais maintenant, ils ont commencé.
Nous devons acheter aussi des antiseptiques. C'est la base. Nous laver les mains. Et présentement, il y a une carence aussi, même dans les pharmacies. Donc, nous sommes obligés de prendre l'eau de Javel, donc les règles élémentaires de base.
Des numéros verts ont été activés cette semaine pour répondre aux questions de la population sur le coronavirus et signaler tout cas suspect d'infection.
Voilà, merci beaucoup Alison Lekogo-Fernandez. Alors, docteur Ndoungi, en quoi l'expérience de la RDC dans la lutte contre Ebola peut vous aider en fait à combattre le coronavirus ou en tout cas s'assurer qu'il y ait le moins de cas possible si jamais vous devriez être touché?
Oui, en fait, ce que je dirais, l'expérience de la lutte contre la maladie à virus Ebola constitue pour nous une opportunité parce que nous avions déjà quelques dispositifs au niveau des points d'entrée. Si nous pouvons énumérer ces dispositifs, nous parlerons de salles d'isolement, par exemple, en cas de suspect au niveau de nos aéroports, au niveau de nos points d'entrée terrestres, il y a déjà des salles d'isolement au niveau de ces points d'entrée-là. Donc ça signifie que les personnels étaient déjà capacités. Mais ce que nous venons de faire avec le coronavirus, c'est une mise à jour par rapport aux spécificités du SARS-CoV-2. C'est juste peut-être ça. Mais
d'accord. Puis,
voilà.
D'accord.
Donc il y a une polyvalence déjà au niveau de nos prestataires. Ils savent, ils contrôlent les maladies, mais ils ont déjà une certaine expérience avec la maladie à virus Ebola.
Tout à
donc,
fait.
On a juste mis à jour certaines notions. Voilà.
D'accord. Alors, docteur Abdoussalam Ouedraogo, avec l'épidémie de SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère, et le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, l'Afrique n'avait pas été très touchée. Hein. Cette fois-ci, est-ce que vous êtes inquiet?
Oui, en fait, on doit être inquiet parce que actuellement, en termes d'épidémiologie, on ne peut plus concentrer une maladie donnée à un continent ou à un pays donné, puisque le monde est devenu un village planétaire. La mobilité des gens font qu'il faut s'inquiéter, et je pense que c'est à juste titre que les alertes sont lancées dans tous les pays et les mesures sont prise pour éviter effectivement la propagation de cette maladie. Donc il faut s'inquiéter parce que jusqu'à présent, sur le plan scientifique, l'épicentre de la maladie c'est en Chine, à Wuhan, à partir du marché de fruits de mer, mais à partir de ce centre-là, le virus et les patients contaminés ont contaminé d'autres personnes qui se sont déplacées. Et c'est la conséquence de ce que nous avons en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc il y a des personnes qui étaient en Afrique,
mais
ces inquiétudes doivent avoir pour conséquence la préparation, l'alerte et la préparation.
D'accord. Alors, Mamadou Mfa, on va peut-être toucher un mot sur l'impact économique. Hein. Les compagnies aériennes africaines, on parle de peut-être 40 millions de dollars en perte. Beaucoup de pays dépendent du tourisme, mais il y a cette nécessité aussi de protéger les populations. Comment faire, disons, l'équilibre?
Exactement. Hein. Le secteur du transport aérien est très touché. Le secteur du tourisme est très touché. Il faut donc, au niveau des aéroports, et c'est bien, l'expert vient de le dire, au niveau des aéroports, il faut prendre les mesures de prévention, parce qu'on a vu beaucoup de cas, par exemple au Sénégal, vous avez parlé du français, des Européens, c'est souvent au niveau des aéroports qu'il faut véritablement contrôler les gens, mais il faut surtout rassurer les populations. Il faudrait dire aux gens que, selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des gens qui sont atteints de cette maladie ne présentent même pas des symptômes, donc on peut parfaitement guérir de la maladie sans même être allé à l'hôpital, même si dès qu'on présente des symptômes, il faut se rendre dans les hôpitaux. Donc il faut rassurer les populations. Il faudrait aussi que les États africains commencent déjà à faire des évaluations pour nous dire voilà,
parce que le secteur, l'Union africaine,
voilà le secteur peut perdre ceci. Et il faut déjà préparer un appui qu'on va apporter au terme de l'épidémie. Et il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Par exemple, l'Africa CEO Forum qui devait se dérouler à Abidjan les 9 et 10 mars, qui a été reporté à une date ultérieure. Le Cameroun va accueillir un événement sportif le mois prochain. Donc tout cela, il faut commencer à évaluer des pertes en prévision et puis prendre des mesures qui s'imposent.
D'accord. On verra. En tout cas, la Banque mondiale et le FMI ont annoncé des mesures d'urgence aux besoins. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.